La centrale, c'est la radio des chats. On est des terres, en fait. On est des terres et révolutionnaires. Garage.
La centrale est un collectif de radio qui participe aux luttes sociales.
Bonjour Suzanne.
Bonjour.
On sait bien que les difficultés à l'hôpital, elles sont structurelles et qu'elles ne naissent pas d'avant-hier, quoi. On s'était dit qu'on parlait beaucoup de tarification à l'acte à l'hôpital et que, en fait, moi, la première, je crois que je ne sais pas trop ce que ça veut dire concrètement. Et on t'avait demandé si tu voulais bien nous parler de ça et nous expliquer ce que c'était.
Alors, la T2A, c'est quelque chose qui a été annoncé en 2003, MATEI, avec le plan hôpital 2007, sous couvert de la loi de financement de l'assurance maladie. Donc 2003, le but c'était de moderniser l'offre de soins et surtout réduire ce dont on parlait beaucoup à ce moment-là, le trou de la sécu, quoi. Bon, autrement dit et plus joliment dit, les dépenses de santé, il fallait les réduire. Qui ne faisait qu'augmenter parce qu'on sait qu'on a une population qui vieillit, mais qui vieillit malade. Elle vieillit pas forcément que en bonne santé, parce que du coup, ça demande des soins supplémentaires, parce que les personnes ont un comportement très consommateur vis-à-vis du soin, comme ils l'auraient chez Carrefour. Ça existe. Des médecins qui prescrivent à tout va, parce que il n'y a pas trop de contrôle, enfin en tout cas, il n'y en a pas assez de contrôle par rapport aux dépenses de santé. Donc la T2A est apparue là-dessus, en disant on va changer la façon dont on rémunère l'hôpital. Donc dans le plan hôpital 2007, il est surtout question d'une nouvelle gouvernance, c'est-à-dire comment vont être gouvernés les hôpitaux. Et la T2A, cette fameuse T2A qui a été mise de façon progressive entre 2005 et 2008, avec un passage d'un financement par dotation globale à un financement à l'activité. Donc financement global, ça veut dire qu'avant on était plutôt sur une logique de moyens. Selon la taille de l'établissement, selon l'activité qu'il avait fait l'année d'avant, on estimait qu'il allait avoir besoin de temps pour pouvoir fonctionner. Alors que là, on passe à un financement à l'activité, donc on est plutôt sur une logique de résultat, où là, on va dire, quelle activité vous avez, et au regard de votre activité, on vous financera. Comment ça marche? Donc, tu es dans une logique plutôt de standardisation des soins. C'est-à-dire qu'on a cette espèce de logique qu'il y avait dans le privé jusque-là, de se dire, voilà, quand j'ai un patient qui rentre, il s'est cassé la jambe, on doit l'opérer, il va rester 4 jours, il va rentrer, ça coûte tant. Tu vois, envoyer à peu près le principe. Donc, en fait, on veut appliquer cette logique-là de standardisation à tous les services qu'on appelle de MCO, donc médecine courte durée, ou médecine chirurgie obstétrique, on va dire. Donc les services où on n'est pas censé rester très longtemps. Et ça fonctionne de la façon suivante. En fait, quand tu as un patient avec une pathologie, une maladie, enfin voilà, quelque chose, un problème de santé, tu es rentré, si tu veux, dans une espèce de codification qu'on appelle les groupes homogènes de malades. Et cette famille de groupes homogènes de malades, il va être attribué un groupe homogène de séjour et donc un tarif. Donc, si, par exemple, tu es un homme de 50 ans qui vient de faire un infarctus du myocarde, tu vas rentrer dans la catégorie infarctus du myocarde, machin, qui correspond à tel prix. Okay. Voilà, en gros, ce que ça veut dire. Donc, ce qui se faisait avant dans le privé. Sauf que là, c'est partout, public, privé, quelle que soit ton activité, quel que soit ton domaine de spécialité. En tout cas, en médecine, chirurgie, obstétrique, c'est comme ça. Ce qui fait que du coup, comme en parallèle, il y a une politique d'austérité et de diminution de la masse salariale, parce que ce qui coûte le plus cher à l'hôpital, c'est les soignants, tu vas avoir double peine et double effet. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que l'établissement de santé va recevoir, on va lui dire « Ah bah t'as des sous, ou t'en as pas ?» T'as fait assez d'activité, on te donne les sous, on te donne le personnel. T'as pas fait assez d'activité, on te donne pas les sous, on t'enlève du personnel. Qu'est-ce qu'on a commencé à faire? On a fermé des lits parce qu'on avait du coup pas, on avait une charge salariale qui était beaucoup trop importante par rapport à ce qu'on projetait de nous donner. Donc, on a commencé à fermer des lits. Politique d'austérité, politique de diminution de masse salariale. Si on n'a pas d'infirmiers, de médecins, d'aides-soignantes à mettre au pied des patients, bah, on enlève les lits. Donc, ouais. On enlève les lits. Et moi, là où je travaillais à l'époque, ça s'est traduit par la fermeture d'un service de 30 lits de médecine, par des lits de chirurgie, par on a enlevé les lits, les fameux lits de réanimation, et puis il y a encore 2 ans, on a fermé carrément un service entier de pédiatrie. C'est ce qui explique, par exemple, qu'entre 2006 et 2018, on est passé de 7500 lits de réanimation à 4600.
Putain, la vache.
Je dis ça, je dis rien.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé dans les services ? Dans les services, bah, du coup, comme on avait beaucoup de mal à rentrer dans cette politique industrielle, ou je sais pas comment dire.
Ouais, ça, c'est industriel. Hein.
Ah oui, on est sur de la standardisation.
C'est de là que ça vient.
La qualité, la démarche qualité est arrivée un peu avant, en 2001, où tous les établissements devaient être certifiés, donc rentrer dans une démarche qualité. Comme on avait dans le domaine industriel 30 ans avant. Donc en fait, on a les mêmes logiques que les logiques industrielles qui arrivent à l'hôpital. Certification, conformité qualité, économie, financement aux résultats, etc. Et donc on transforme des soignants qui ont une philosophie de soignant, donc une philosophie plutôt humaniste, en des gestionnaires. Mais des gestionnaires qui ne sont pas là pour ça. Ouais. Et qui ne savent pas faire en plus. Donc dans les services, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure? On a commencé à tourner de plus en plus à flux tendu. C'est-à-dire que les effectifs de soignants journaliers devenaient l'effectif minimum dit de sécurité, mais c'était pas une fois de temps en temps, c'était tout le temps. On était tout le temps à flux tendu, c'est-à-dire que tu n'avais jamais un soignant de trop dans le service. C'était même plutôt, tu avais toujours un soignant de moins dans ton service. Tu vois? Quand il y avait un arrêt maladie dans un service, on n'avait pas forcément, enfin, on avait le droit dans une certaine mesure, nous les cadres, d'appeler des vacataires ou d'appeler des intérimaires, parce que ça coûtait parfois trop cher, parce qu'on n'avait plus d'argent, parce qu'on avait déjà 3 millions de déficits et qu'il n'était pas question de creuser plus. Et donc la seule solution, de façon chronique, ça a été de commencer à faire revenir en fait les soignants en poste sur leur jour de congé ou sur leur repos. Ou alors faire des heures sup. Ah oui, parce qu'entre-temps, il y a eu les 35 heures quand même. 35 heures, mais à effectif constant, parce que quand il fallait réduire la masse salariale, voilà. Et puis quand, de toute façon, tu disais, toi, en tant que soignant, bah non, je peux pas, je dois garder mes enfants, mais non, je peux pas, machin, c'était, bah madame, vous allez trouver une solution, parce que de toute façon, on viendra vous réquisitionner.
Ouais.
Donc, voilà, ça s'est traduit comme ça, mais de façon de plus en plus chronique, en fait. Hein, ça a commencé doucement, et puis bah, après, c'est devenu d'exceptionnel, c'est devenu un quotidien, et avec une pression de plus en plus importante vis-à-vis de ça, quoi. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Bah, faut savoir qu'il y a des tarifs dans les groupes homogènes de malades, dans les catégories de patients, il y a des choses qui rapportent plus que d'autres. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une logique industrielle? Bah, tu vas vers ce qui rapporte.
Ouais.
Donc, on va choisir les spécialités des établissements de santé, non pas en fonction d'un besoin de population, mais en fonction de ce que ça va rapporter à l'établissement de santé pour pas qu'il ferme. Parce que c'est ça, le truc à la clé, c'est de dire, bah, si vous faites pas, et si vous n'êtes pas rentable, ou si vous êtes trop en déficit, on va fermer, monsieur, dame. Donc, concrètement, les médecins ont une pression de plus en plus importante sur la sélection des patients. On fait attention à qui on admet, qui on n'admet pas. Tiens, on va développer plutôt telle spécialité plutôt que telle autre parce qu'on s'en sortira mieux.
C'est un peu glaçant.
Et la pression.
Oui.
Pardon.
C'est un peu glaçant ce que tu racontes.
Ouais, je sais, mais ça, c'est les, fin,
ah ouais.
C'est les souterrains de ces 15 dernières années, on est bien d'accord.
Est-ce qu'il y a dans l'industrie ou dans les diverses autres sphères économiques, disons, où ça s'est répandu, ça allait aussi de pair avec le développement de toute une partie du personnel et sa spécialisation dans le management, les rapports, enfin les PowerPoint, tout ça, quoi.
Ouais, mais c'est venu en même temps, en fait. C'est venu par la force des choses et par ça, en fait, où on s'est retrouvé à devoir encaisser la casquette de gestionnaire de plus en plus importante. Dans la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire de 2009, donc là on est sur Bachelot, toujours dans un objectif de retour à l'équilibre des hôpitaux parce qu'on est encore à je ne sais plus combien de millions de déficits. La gouvernance qui avait été commencée à être réfléchie par Mattei, on accentue le truc et on donne de plus en plus de pouvoir aux directeurs des établissements. Et qui sont les directeurs des établissements? Ce sont des gestionnaires, ce ne sont pas des médecins.
Ouais, ce ne sont plus des soignants aussi.
Et ce ne sont pas du tout des soignants.
Ouais.
Ce sont des gestionnaires, des DRH, des directeurs économiques, voilà. Mais en tout cas, ce ne sont pas des soignants. Et c'est pire que ça, parce que même au sein des services même, on commence à vouloir découper les établissements, un établissement de santé en des pôles. On parle de pôle, du pôle médecine, du pôle chirurgie, du pôle gériatrie, machin. Et au sein de ces pôles, il y a un trio, le médecin, bon, le cadre de santé, ok, bon, qui est issu de la filière soignante, mais qui est plus avec une étiquette de manager. Mmh. Et d'un seul coup, pouf, on voit débarquer un cadre administratif.
Qui sert à quoi ? À remplir les tableaux de bord,
quoi. Il sert à remplir les tableaux de bord.
Ouais.
Bien évidemment.
Donc en fait, c'est là on est sur de la masse salariale, tu vois, enfin de l'argent qui vient pas dans le soin, quoi. Et on développe de plus en plus ces cadres administratifs, là où il faudrait développer plutôt.
Là où il faudrait des infirmiers.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
C'est ça. Les cadres de santé, moi, comme j'étais encore cadre de santé, on était en général allé à la belle époque, on va l'appeler comme ça, un cadre de santé pour un service d'une trentaine de lits.
Ouais.
Il faut savoir que maintenant, un cadre de santé, qui est issu, je le dis bien quand même, de la filière soignante, même s'il est devenu manager, maintenant, c'est un cadre de santé pour 60-90 lits.
Ouais.
Et on trouve ça normal. Alors, quid du management de proximité? Hein, c'est-à-dire que là où on pouvait encadrer les équipes dans le sens où s'assurer qu'il y avait une qualité des soins, qu'il y avait le matériel, que les gens étaient formés, que les choses étaient faites correctement, qu'on pouvait coordonner le parcours de santé des patients, qu'on faisait les entretiens avec la famille, etc. pour le parcours de soins et tout, bah là, c'est plus possible. Donc, c'est une charge de travail qui retombe sur les infirmiers qui, déjà, eux, sont asphyxiés.
Ouais.
Et les médecins aussi, du coup. Hein. Mmh. Tout le monde est dans le même bateau, hein. Donc, ce qui se passe à cette époque-là, après 2009, là, vers 2000, ouais, je crois que le summum pour moi, ça a été entre 2012 et 2014, où on se retrouve en fait à des réunions de service, où finalement, on parle moins des soins, des protocoles de soins, des problèmes d'équipe, etc., que des tableaux de bord, du nombre de séjours qu'on a fait et des millions de déficits qu'on est en train de faire avec toute la culpabilité qu'on met sur les épaules des soignants en leur disant « Mais vous n'avez pas fait assez de séjours, les enfants, va falloir vous réveiller !» Et on fait citer les médecins devant tout le monde, disant « C'est bien, vous avez augmenté votre activité, vous êtes bien, vous allez être chef de service, vous, c'est super !» Et puis celui qui avait une activité qui était plus compliquée parce que plus centrée sur des choses qui étaient pas prévisibles, je pense notamment par exemple à toutes les pathologies chez les personnes âgées, eux, on leur disait « Non mais vous êtes juste mauvais, quoi !» Vous êtes juste mauvais, donc déjà, un, vous allez gicler de votre poste, et puis en plus, je pense que on va encore réduire votre activité.
Ouais, ouais, c'est le ressenti qu'il y a aussi à l'hôpital de Brest et qui est exprimé par des infirmiers, par des médecins, où, par exemple, ils parlaient de... Le 14 février, là, il y a eu un gros rassemblement pour l'hôpital de Brest, mais c'était un rassemblement national pour la santé. Où des médecins dénonçaient un truc... déjà, d'une part, le nombre de postes dits ouverts à l'hôpital de Brest, où en fait, c'était que des cadres administratifs, et que du coup, pour eux, ça comptait pas. Et dans un second temps, ce que tu viens de dire, il y a un médecin qui a un peu craqué en disant qu'il en avait ras le cul de la communication bling-bling de l'hôpital, où, si tu veux, quand tu arrives à l'hôpital de Brest... Quand tu rentres dans l'hôpital, t'as un grand mur, ça a coûté des fortunes, t'as un grand mur qui diffuse des portraits de soignants.
J'ai eu le droit, ça aussi.
Voilà, et qui sont donc hyper valorisés. Et en fait, c'est toujours les mêmes services qui sont valorisés, c'est-à-dire ceux qui sont effectivement rentables, enfin dits rentables. Et le médecin, là, le médecin disait, j'en peux plus, en fait. J'en peux plus de cette communication qui accentue déjà les dysfonctionnements de l'hôpital, quoi. Et c'est exactement ce que tu dis. Et du coup, bah voilà, à Brest, en Bourgogne, c'est les mêmes constats, quoi.
Ah, mais c'est les mêmes partout. Et en Ile-de-France, c'est les mêmes. Parce que moi, il y a beaucoup de choses que je raconte là, c'est de l'Ile-de-France.
C'est l'Ile-de-France.
Et en parlant avec mes collègues de Bourgogne, encore, voilà, c'est partout pareil. C'est clair. Et non, mais depuis quand il y a des cellules de com' dans les hôpitaux?
Ouais.
C'est le truc qu'on n'avait jamais vu. On n'avait jamais eu un service de com' avec 4 personnes à l'intérieur avant 2010, quoi.
Mais c'est parce que normalement, il n'y a pas besoin, en fait.
Mais en fait, on n'est pas là pour ça.
Ouais, ouais, clairement.
Et comme on n'est pas là pour briller. On n'est pas là pour briller plus que le copain d'à côté, en fait. Puisqu'on est censé être mission de service public et faire exactement la même chose.
Ah ouais, c'est...
Bon, après, avec chacun ses domaines de spécialité. Mais je veux dire, on n'est pas Amazon, on n'est pas Carrefour. On n'a pas à être en concurrence les uns avec les autres. Or, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Moi, là, j'ai failli gerber cette semaine parce que j'ai un des hôpitaux à côté, celui où je travaillais avant. Mais attends, sans déconner, en 15 jours, ils ont fait deux fois le 20h, et puis là, ils sont dans 20 minutes, ils sont dans Actu Machin, ils sont dans le truc. Quand tu le fais, les sous-marins et tout ce qui se passe à l'intérieur, et quand tu vois l'image qu'on en donne dans les médias, mais c'est juste à pleurer.
L'hôpital dont tu t'es barré, hein, c'est ça?
Ouais, c'est juste à pleurer. Moi, j'ai juste envie de vomir, en fait. Je me dis, mais en fait, ils ont passé un contrat avec qui? Chez les journalistes, avec qui ils ont passé un contrat pour passer autant à la télé en ce moment.
Et pour dire quoi exactement?
Mais pour dire que c'est formidable, parce que tu te rends compte, ils ont ouvert 14 lits de réanimation d'un seul coup d'un seul, ce qui dispasse, et que les respis sont en train de tomber les uns derrière les autres parce qu'ils sont pas faits pour ça. Que c'est formidable parce qu'ils accueillent les patients, machin, bidule, mais alors qu'ils n'ont pas le personnel qualifié en face, c'est-à-dire qu'ils ne se préoccupent pas des personnes qui mettent au pied des lits des patients. Ouais. Alors, c'est toujours, tu sais, c'est toujours tangent, en fait, c'est toujours un cheveu. On te dit, non, mais si, le personnel est qualifié, regardez, il y a au moins une infirmière anesthésiste. Ah oui, effectivement, il y a une infirmière anesthésiste, mais les autres... Oui, mais c'est des infirmières, quand même, donc vous entendez, les infirmières, ce sont des infirmières. Ben non, une infirmière, c'est pas juste une infirmière, en fait. Et un médecin, c'est pas juste un médecin non plus. Un médecin généraliste peut pas s'improviser médecin de réanimation, c'est pas vrai.
Ouais.
Bon, bref, tout ça, c'est pas très réjouissant, on est bien d'accord.
Quelles sont les réformes pour toi qui ont le plus maltraité l'hôpital? Tu viens de nous faire 15 ans de politique à l'hôpital, et c'est bien quand même de prendre un peu de recul, quoi. Même si, effectivement, c'est pas réjouissant. Mais c'est...
Ouais, c'est pas réjouissant. Et il commence à parler d'une dotation modulée à l'activité. Tu sens le sens des mots, là?
Ouais.
De dotation modulée à l'activité. J'aime beaucoup ce mot « modulé ». Voilà, donc, ouais, je sais pas quelles seront les prochaines réformes, ou pas. Mais en tout cas, c'est sûr que l'hôpital fait peur, que les gens se révoltent parce que le fait que les médecins ne veulent pas être gestionnaires, ça fait des années qu'ils le décrivent.
Ouais, d'ailleurs.
Avant la crise, je rappelle qu'il y a quand même eu je ne sais pas combien de médecins qui donnaient leur démission de leur mission de gestionnaire, parce qu'on a fait croire qu'ils démissionnaient de l'hôpital. Non, non, ils démissionnaient de leur mission de gestionnaire, parce qu'ils n'en peuvent plus, quoi.
Merci beaucoup.
Mais de rien.
Bon courage pour ta semaine à venir. Si tu pètes des plombs, tu peux appeler le répondeur Piquet ou le répondeur à Centrale. Pierre, c'est quoi le numéro?
C'est 09 50 39 67 59.
Et comme ça, tu peux cracher ta Valda.
Ok, ça marche.
On te fait des gros bisous.
Bon, allez, bisous.
Des bisous.
Bisous. Merci beaucoup, merci. À bientôt.
Salut.
L'hôpital est mort, je n'ai plus envie. Ouvre nous des lignes pour sauver des vies. Au clair de la lune, mon ami Agnès.